last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Au sommaire de ce quatrième épisode du journal du Arras Film Festival, dans une douzaine de minutes, Patrick nous présente une chronique sur l'avant-première La Place d'une Autre. Mais tout de suite, je vous propose une interview de Léo Marchand, co-réalisateur du film d'animation Les voisins de mes voisins sont mes voisins, proposé également en avant-première, et cette interview sera agrémentée d'un micro-trottoir réalisé à l'issue de la projection. Les voisins de mes voisins sont mes voisins de Anne-Laure Davis et Léo Marchand est un film mêlant plusieurs techniques d'animation présentées en avant-première pour cette 22e édition du Arras Film Festival. On entre dans la vie de personnages qui virevoltent dans leur quotidien, truffés d'aventures rocambolesques et presque invraisemblables. Un magicien qui postule à Pôle emploi, un pseudo-alpiniste coincé avec son chien dans un ascenseur, une artiste de cirque qui perd ses jambes et un ogre qui perd ses dents. Entretien avec Léo Marchand, l'un des réalisateurs, pour en savoir plus. Interview suivie de quelques réactions de jeunes et moins jeunes spectateurs. Léo Marchand, Les voisins de mes voisins sont mes voisins. On sort de la projection. C'est un film qui est assez foutraque, quand même, faut le dire. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on en prend plein la vue. Et il y a plein de techniques d'animation. Alors, c'est votre premier long métrage avec Laure. Donc, comment vous avez eu justement cette envie de faire un long métrage et... Parce que ça prend du temps, j'imagine. Vous pouvez nous expliquer un petit peu combien de temps vous avez travaillé sur ce film ?
Ça nous a pris 4 ans de fabrication, voilà, mais on n'est pas spécialement plus long que d'autres. L'animation, de toute façon, c'est long à fabriquer, d'autant plus que tous les dessins sont dessinés par Anne-Laure. Donc il y a 30 000 dessins dans le film. Je comprends le mot foutraque, je ne sais pas si c'est exact, je crois que c'est un film qui ne s'inscrit pas, on va dire, dans la tradition de l'animation. Voilà, je pense qu'il puise beaucoup plus ses références dans le cinéma de prise de vue réelle, en tout cas, nous, en tout cas, pour un certain cinéma. Je pense que... C'est une narration, je dirais, qui s'approcherait, avec beaucoup de modestie, en tout cas, plutôt de Fellini, comme un film comme Amarcord, où il y a une capacité, justement, dans la narration, de glisser, de passer sur des personnages en arrière-plan, sur des dialogues en avant-plan, une capacité, justement, à glisser sans cesse et pas être dans un récit... comme on a l'habitude maintenant, je pense, de voir presque proche du réel, qui s'approche de ça.
Ce que je trouvais pas tant dans votre film, c'est que vous avez une façon de réinventer justement le cinéma d'animation. Un petit peu comme ce qu'avait fait à l'époque. Alors, c'est pas vraiment. Je puisse pas cette référence. Il n'y a aucun parallèle. Mais les deux réalisateurs belges de Cowboy et Indien, Panic au Village, avec le stop motion. Je sais pas si ça vous parle.
Si, ça me parle. Je crois je crois pas qu'on réinvente. Je pense que. C'est ce que je disais là en début de séance. Je pense qu'on est peu de réalisateurs à porter notre vrai travail. Panic au Village, il y avait des courts-métrages dans cet esprit-là, et ils ont porté au cinéma leur travail. Pour nous, c'est pour ça que quand on dit « c'est notre premier film », c'est la tradition de le dire parce que c'est un premier long-métrage. Mais pour nous, c'est la suite d'un cinéma qu'on propose en court-métrage. Et nous, on fait de la prise de vue réelle et de l'animation. Donc c'est dans cette idée-là, on prolonge notre travail en long métrage. Donc en fait, je crois qu'on ne réinvente pas le cinéma d'animation, on fait une proposition d'auteur, une proposition exigeante en long métrage, sachant qu'il y en a très peu, du coup, réellement, de réalisateurs qui portent leur travail en long. Il y a beaucoup de choses qui se font en court-métrage, très variées, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, je disais réinventer, mais justement parce que vous proposez autre chose, mais dans un long format auquel les spectateurs ne sont pas forcément habitués. Alors, une chose que j'ai remarqué, je pense que tout le monde l'a remarqué également, c'est qu'il y a quand même une critique assez acerbe de la société de consommation d'aujourd'hui à travers votre film, que ce soit à travers la télévision, que ce soit à travers la publicité, que ce soit à travers la consommation dans les supermarchés, etc. Est-ce que c'est un message que vous voulez faire passer ou c'est juste le reflet de notre société aujourd'hui ?
Je crois que c'est dans la fin de votre question. Non, on n'est pas dans, on fait pas des films à message, on n'essaye pas du tout de ça. Je crois que d'ailleurs, enfin, pour nous, hein, j'ai pas dit. Je pense que c'est un défaut d'essayer d'être qu'un film soit un message me semble étrange, parce que je crois que le rôle d'un travail, que ce soit par exemple d'un romancier, etc. Je crois que ça peut être en tout cas un état des lieux du monde. Je crois qu'il faut être spectateur sans jugement réellement, parce que je crois qu'il faut savoir regarder, regarder les choses et essayer de les rendre par un filtre qui est justement celui pour nous du cinéma. Et je crois que c'est plus notre regard, nous, sur le monde, comment on l'observe, comment on le voit. Et voilà, je pense qu'il faut aussi l'aimer même dans ce qui pourrait paraître laid dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en tout cas, c'est pas du tout un message. Ce n'est pas un message. C'est notre regard sur un instant du monde. D'ailleurs, pas un instant T, parce que le film mélange des époques. Donc, il n'est pas collé à la réalité là. Il va mélanger les époques.
C'est ce qui est intéressant également, on se mélange des époques parce que tout le monde peut s'y retrouver. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué qui a beaucoup fait rire le public quand c'est arrivé par deux ou trois fois dans le film, c'est le Pôle emploi. Parce que le magicien y va et finalement on lui propose un métier de boucher. Donc du coup, ça reflète aussi vraiment notre société un petit peu d'aujourd'hui qui est un peu décadente à ce niveau-là, j'imagine.
J'imagine, peut-être, mais par exemple, le Pôle emploi, il est très... pour nous, ce que j'essaie d'expliquer aussi souvent quand je suis en salle, c'est qu'il y a la narration du film, il y a l'histoire, et puis il y a ce que racontent aussi les images ou le son, ou les deux. Pour le Pôle emploi, par exemple, on a décidé de représenter cet espace vide, alors qu'on a une époque où... Le chômage, on pourrait se dire, mais c'est pas réaliste, il faudrait que ce soit rempli. Justement, par exemple, je crois que là, le film ne parle pas de la réalité d'aujourd'hui, il parle peut-être d'une réalité de dans pas longtemps. En tout cas, je dirais que ces lieux sont voués, ces espaces immenses sont voués à être vides. Pas parce que les gens auront du travail, c'est parce que tout va se faire à distance. Or, on a une quantité de lieux comme ça qui sont faits pour recevoir du public, qui n'en recevront plus. C'est sûr et certain, puisque Pôle emploi, si vous téléphonez aujourd'hui à Pôle emploi, on va vous dire, allez sur l'application, chargez l'application d'abord, essayez de régler ça sur Internet. On peut régler 95 ou 99% des choses par Internet. Donc la vocation de ces lieux est, je pense, représentée dans ce film pour l'avenir, c'est d'être complètement vide. Et il n'y aura à l'intérieur que des gens qui sont... pas en phase avec ce qui est en train de se passer. Et c'est le cas du magicien.
Ah oui, qui est tout seul d'ailleurs dans Pôle emploi quand il y va. Des petites références aussi. Je regarde un petit peu à droite et à gauche. J'ai vu une affiche de Garcimore. J'ai vu une affiche de Pif Gadget. Donc ça, j'imagine que ça, c'est des petites touches aussi un petit peu personnelles que vous rajoutez ou...
Bah oui, parce que de toute façon, un film d'animation, à la différence d'un film d'un prise de vue réelle, rien n'est au hasard. Rien. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, il faut le créer, il faut le choisir, il faut le mettre en scène. Donc quand on choisit un autocollant, on ne choisit pas au hasard dans le film. Quand on choisit un bout de scotch qui traîne, il n'est pas là par hasard. C'est pas pour, parce que c'est esthétique, c'est pas parce que c'est beau, parce que d'ailleurs il y a des plans qui sont très laids, je pense, dans notre film. Parce que voilà, ils doivent être ce qu'ils doivent être. Donc, Garcimore, pour nous, c'est notre magicien. C'est normal qu'il ait ça comme référence. Il est dans la veine de cette époque-là, de ce côté cabaret, etc. Donc, c'est normal pour nous. Et puis, comme il est cette époque, c'est aussi son époque, comme je dis. Donc, on le fait coller à son époque. Mais ça ne veut pas dire que d'autres personnages ne seront pas dans une autre époque au même moment. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça se mélange très bien. Et si ça se mélange très bien, c'est que ça se ressemble au fond, même si c'est des choses qu'on peut dire qu'elles sont du passé. Je crois qu'elles ont encore leur réalité maintenant, différemment, mais elles ont leur réalité.
Et pour terminer, une scène qui a beaucoup marqué aussi le public, hein, puisque j'ai fait quelques petites interviews de réactions un petit peu à chaud, c'est l'épisode de Lady Di, forcément. Beaucoup m'ont dit, c'est un humour très british, et pourtant... Parce que là, fallait oser quand même découper Lady Di comme vous l'avez fait et donner ses jambes à quelqu'un d'autre.
Oui, je pense que ça fait partie des surprises du film. Après, je pense que ça ancre aussi le film tout d'un coup. C'est-à-dire on est dans une genre de fable, puisqu'on n'est pas dans une réalité. Et puis de ramener une réalité aussi forte, un événement d'ailleurs avec une double lecture, parce que notre idée, c'est qu'un enfant et un adulte ne voient pas le même film. Donc, l'adulte va voir Lady Di, un enfant, Lady Di, je pense que ça ne lui parle pas, il va voir une princesse. Donc ça nous intéresse aussi ce décalage-là, donc c'est pour ça qu'on y tient, et pour ça qu'on met vraiment les images. Et puis après, je pense que, on est dans un humour anglais, autant le faire avec une anglaise.
Alors, une chose que j'ai remarqué, je pense que tout le monde l'a remarqué également, c'est qu'il y a quand même une critique assez acerbe de la société de consommation d'aujourd'hui à travers votre film, que ce soit à travers la télévision, que ce soit à travers la publicité, que ce soit à travers la consommation dans les supermarchés, etc. Est-ce que c'est un message que vous voulez faire passer ou c'est juste le reflet de notre société aujourd'hui ?
Je crois que c'est dans la fin de votre question. Non, on n'est pas dans, on fait pas des films à message, on n'essaye pas du tout de ça. Je crois que d'ailleurs, pour nous, j'ai pas dit. Je pense que c'est un défaut d'essayer d'être qu'un film soit un message me semble étrange, parce que je crois que le rôle d'un travail, que ce soit par exemple d'un romancier ou etc. Je crois que ça peut être en tout cas un état des lieux du monde. Je crois qu'il faut être spectateur sans jugement réellement, parce que je crois qu'il faut savoir regarder, regarder les choses et essayer de les rendre par un filtre qui est justement celui pour nous du cinéma. Et je crois que c'est plus notre regard, nous, sur le monde, comment on l'observe, comment on le voit. Et je pense qu'il faut aussi l'aimer même dans ce qui pourrait paraître laid dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en tout cas, c'est pas du tout un message. Ce n'est pas un message. C'est notre regard sur un instant du monde. D'ailleurs, pas un instant T, parce que le film mélange les époques. Donc, il n'est pas collé à la réalité là. Il va mélanger les époques.
C'est ce qui est intéressant également, en ce mélange des époques, parce que tout le monde peut s'y retrouver. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué qui a beaucoup fait rire le public quand c'est arrivé par deux ou trois fois dans le film, c'est le Pôle emploi. Parce que le magicien y va et finalement on lui propose un métier de boucher. Donc du coup, ça reflète aussi vraiment notre société un petit peu d'aujourd'hui qui est un peu décadente à ce niveau-là, j'imagine.
J'imagine, peut-être, mais par exemple, le Pôle emploi, il est très... pour nous, ce que j'essaie d'expliquer aussi souvent quand je suis en salle, c'est qu'il y a la narration du film, il y a l'histoire, et puis il y a ce que racontent aussi les images ou le son, ou les deux. Pour le Pôle emploi, par exemple, on a décidé de représenter cet espace vide, alors qu'on est à une époque où... Le chômage, on pourrait se dire, mais c'est pas réaliste, il faudrait que ce soit rempli. Justement, par exemple, je crois que là, le film ne parle pas de la réalité d'aujourd'hui, il parle peut-être d'une réalité dans pas longtemps. En tout cas, que ces lieux sont voués, ces espaces immenses sont voués à être vides. Pas parce qu'il y a, parce que les gens auront du travail, c'est parce que tout va se faire à distance. Or, on a une quantité de lieux comme ça qui sont faits pour recevoir du public, qui n'en recevront plus, c'est sûr et certain, puisque Pôle emploi, si vous téléphonez aujourd'hui à Pôle emploi, on va vous dire, allez sur l'application, chargez l'application d'abord, essayez de régler ça sur Internet. On peut régler 95 ou 99% des choses par Internet. Donc la vocation de ces lieux est, je pense, représentée dans ce film pour l'avenir, c'est d'être complètement vide. Et il n'y aura à l'intérieur que des gens qui sont pas en phase avec ce qui est en train de se passer. Et c'est le cas du magicien.
Mais je pense que c'était très original, en fait. Oui, très original et j'attendais pas la fin, c'est assez impactante, voilà. Mais je sais pas pour les filles.
Ouais, alors.
Moi, j'ai eu un petit peu peur, mais j'ai bien aimé ce film.
Il y a une scène qui t'a marqué particulièrement parmi les personnages que tu vois dans le film?
Oui, le tout début.
Alors, c'est quoi exactement le tout début?
Bah, c'est où il fait le tour de magie dans les toilettes.
Est-ce que tu as reconnu l'accident?
Bah non.
Parce que tu étais trop petite, mais c'était une princesse, c'était Lady Di. Tu sais, c'était quelqu'un connu en fait.
Avec Lady Di, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, ouais, j'étais contente. Enfin, pas contente, non, mais surprise. Genre, je m'attendais vraiment pas à ce que Popolo, le magicien du cirque, soit lié à la mort de Lady Di.
Moi j'ai trouvé ça très marrant, ouais. Enfin, surtout très osé pour un film d'animation. Ouais, c'était très surprenant sur le coup. Avec les Didi c'était hors du commun on va dire. Ouais.
Moi j'ai bien aimé le film, il m'a fait rire, mais après j'ai pas l'impression de tout avoir compris vraiment. Mais en tout cas il m'a fait rire, il m'a fait passer un bon moment. Et par contre, il m'a intrigué les décors, tout ça, parce que du coup, je me disais, est-ce que c'est peint, est-ce que c'est dessiné, et combien de temps ça a pris, parce que ça a dû prendre vraiment beaucoup de temps.
Bah moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai pas tout compris non plus, mais les décors, je trouve ça bien fait. Le fait qu'il y ait des vraies affiches de la réalité, par exemple, ou des reportages, ça m'a. Je trouve ça, j'ai bien aimé en fait. Et du coup, c'est original et j'ai bien aimé.
Bah, j'ai bien aimé et bah, en fait ça m'a fait penser à un dessin animé quand j'étais petite.
Ah, lequel hein?
Je me souviens plus du
nom. Tu te souviens plus du nom?
Non.
Ok, et il y a une scène, un personnage que t'as préféré dans le film?
Oui, j'ai préféré la dame qui s'est fait couper en deux.
Moi j'ai été bluffée par tout ce qui était des décors. Ouais. Parce que c'est toujours des ambiances différentes. Il y a un moment où c'est que des décors de Barbie. J'ai trouvé ça bluffant, en fait, de réussir à poser des dessins sur des décors qu'on pourrait créer nous-mêmes, en fait. Et y a, enfin, j'ai trouvé tout ce qui était niveau visuel très intéressant. Voilà.
Les voisins de mes voisins sont mes voisins de Anne-Laure Davis et Léo Marchon sortira sur les écrans français le 2 février prochain. On retrouve Patrick pour une chronique de l'avant-première La place d'une autre. On terminera ce magazine par un agenda de films à découvrir en compétition européenne pour ce jeudi 11 novembre.
La place d'une autre est un drame réalisé par Aurélia Georges avec au générique Lina Koudry, Sabine Azéma, Maud Wheeler et Laurent Poitrenaud. L'action du film se situe au moment de la Première Guerre mondiale. Nelly, fille de lingère, livrée à elle-même dans les rues de Paris, mène une vie de débauche lorsque la guerre éclate. Elle rejoint alors la Croix-Rouge pour soigner les blessés et vient au secours d'une jeune voyageuse égarée, Rose, qu'elle va héberger pour la nuit. Un obus éclate près de leur abri et la voyageuse est laissée pour morte. Nelly voit l'occasion d'échapper à son existence misérable en prenant l'identité de Rose, la jeune femme qu'elle a vue mourir sous ses yeux. Elle se présente à la place de Rose chez une riche veuve, Éléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances, et la gouvernante de la maison bourgeoise va peu à peu considérer Nelly comme sa fille, sans se rendre compte des mensonges que Nelly doit inventer pour répondre aux questions sur ses origines. L'extrait qui suit aurait pu cependant amener Madame de Lingueville, que joue Sabine Azéma, à plus de méfiance.
Madame ?
Non, non. Non ! Ça. Ça, on peut le manger.
Ça ?
C'est de la cirrhose. La feuille est remarquable, n'est-ce pas ? Faudrait la dessiner. Je demanderai à Honorine de venir en ramasser. Mais comment est-ce que vous savez tout ça ?
Je l'ai appris d'une femme de la campagne. Quand nous étions en Sicile avec mon père.
En Sicile ? J'ignorais que votre père avait été en poste là-bas. Oh, quelle vie vous avez eue ?
On y danse la tarentelle. Vous savez ?
Mais oui, j'ai un livre de gravure à la bibliothèque. On y voit exactement cette pose.
Ah oui ?
Cette vie rêvée de Nelly va basculer lorsque Rose va surgir dans une réception et revendiquer sa véritable identité. Elle, qu'on croyait morte, avait pu finalement survivre à ses graves blessures et revient pour tenter de dénoncer l'usurpatrice. Qui va-t-on croire ? Madame de Langueville va-t-elle rejeter Nelly qu'elle adore ? Rose va-t-elle parvenir à prouver sa bonne foi ? Autant de questions que je vais laisser sans réponse pour ne pas divulgâcher l'intérêt des futurs spectateurs. Le thème n'est pas vraiment inédit, si l'on se rappelle le retour de Martin Guerre par exemple. Le rythme du film, un peu lent, peut ennuyer ceux qui ne se laisseront pas prendre par l'ambiance. Il bénéficie cependant d'une très belle photographie, de jolis cadres de tournage et de reconstitutions historiques réussies. Il sortira en salle le 19 janvier 2022.
On passe maintenant à l'agenda des films à voir en compétition européenne pour ce jeudi 11 novembre. À 11h30, Becoming Mona, film néerlando-belge de Sabine Loubebacker et Niels van Kevorden, le portrait en trois volets d'une jeune femme discrète et soumise. À 16h30, Erna at War, coproduction danoise, estonienne et belge de Henrik Ruben Gens, qui dévoile l'histoire inédite d'une mère déguisée en homme prête à tout pour sauver son enfant parti à la guerre. Et à 19h, Leave No Traces, coproduction polonaise, française et tchèque de Jan Matuszynski, qui revient sur un fait divers historique dans la Pologne de 1983, séance en présence du réalisateur. C'est la fin de ce magazine, prochain rendez-vous dès demain, 7h30, 12h30 et 18h.